D'autres prisonniers apparurent dans le soupirail, avec leurs barbes hérissées, leurs prunelles flamboyantes, tous se poussant, hurlant « Du pain !» Le père Roque fut indigné de voir son autorité méconnue. Pour leur faire peur, il les mit en joue, et porté jusqu'à la voûte par le flot qui l'étouffait, le jeune homme, la tête en arrière, cria encore une fois « Du pain !»« Tiens, en voilà !» dit le père Roque en lâchant son coup de fusil. Il eut un énorme hurlement, puis rien. Au bord du baquet, quelque chose de blanc était resté. Après quoi, M. Roque s'en retourna chez lui, car il possédait, rue Saint-Martin, une maison où il s'était réservé un pied-à-terre. Et les dommages causés par l'émeute à la devanture de son immeuble n'avaient pas contribué médiocrement à le rendre furieux. Il lui sembla, en la revoyant, qu'il s'était exagéré le mal. Son action de tout à l'heure l'apaisait comme une indemnité. Ce fut sa fille elle-même qui lui ouvrit la porte. Elle lui dit, tout de suite, que son absence trop longue l'avait inquiété. Elle avait créé un malheur, une blessure. Cette preuve d'amour filial attendrit le père Roque. Il s'étonna qu'elle se fût mise en route sans Catherine. « Je l'ai envoyée faire une commission, » répondit Louise. Et elle s'informa de sa santé, de choses et d'autres, puis, d'un air indifférent, lui demanda si par hasard il n'avait pas rencontré Frédéric. « Non, pas le moins du monde. » C'était pour lui seul qu'elle avait fait le voyage. Quelqu'un marcha dans le corridor. « Ah, pardon !» Et elle disparut. Catherine n'avait point trouvé Frédéric. Il était absent depuis plusieurs jours et son ami intime, M. Delaurier, habitait maintenant la province. Louise reparut toute tremblante, sans pouvoir parler. Elle s'appuyait contre les meubles. « Qu'as-tu, qu'as-tu donc ?» s'écria son père. Elle fit signe que ce n'était rien et par un grand effort de volonté se remit. Le traiteur d'en face apporta la soupe, mais le père Roque avait subi une trop violente émotion. Ça ne pouvait pas passer. Et il eut au dessert une espèce de défaillance. On envoya chercher vivement un médecin qui prescrivit une potion. Puis, quand il fut dans son lit, M. Roque exigea le plus de couverture possible pour se faire suer. Il soupirait, il geignait. « Merci, ma bonne Catherine. Baisse ton pauvre père, ma poulette. Ah, ces révolutions !» Et comme sa fille le grondait de s'être rendu malade en se tourmentant pour elle, il répliqua « Oui, tu as raison. » Mais c'est plus fort que moi. Je suis trop sensible. Chapitre 2e. Madame d'Ambreuse, dans son boudoir, entre sa nièce et Miss John, écoutait parler M. Roque, comptant ses fatigues militaires. Elle se mordait les lèvres, semblait souffrir. « Oh, ce n'est rien, ça passera. » Et d'un air gracieux, « Nous aurons à dîner une de vos connaissances, M. Moreau. » Louise tressaillit. Puis seulement quelques intimes, Alfred de Sisy, entre autres. Et elle vanta ses manières, sa figure, et principalement ses mœurs. Madame d'Ambreuse mentait moins qu'elle ne croyait. Le vicomte rêvait le mariage. Il l'avait dit à Martinon, ajoutant qu'il était sûr de plaire à Mademoiselle Cécile et que ses parents l'accepteraient. Pour risquer une telle confidence, il devait avoir sur la dot des renseignements avantageux. Or, Martinon soupçonnait Cécile d'être la fille naturelle de M. d'Ambreuse, et il eût été, probablement, très fort de demander sa main à tout hasard. Cette audace offrait des dangers. Aussi, Martinon, jusqu'à présent, s'était conduit de manière à ne pas se compromettre. D'ailleurs, il ne savait comment se débarrasser de la tante. Le mot de Sisy le détermina, et il avait fait sa requête au banquier, lequel, n'y voyant pas d'obstacle, venait d'en prévenir Madame d'Ambreuse. Sisy parut. Elle se leva, dit « Vous nous oubliez ? Cécile, shake hands ?» Au même moment, Frédéric entrait. « Ah, enfin, on vous retrouve !» s'écria le père Roque. « J'étais trois fois chez vous, avec Louise, cette semaine. » Frédéric les avait soigneusement évités. Il allégua qu'il passait tous ses jours près d'un camarade blessé. Depuis longtemps, du reste, un tas de choses l'avaient pris, et il cherchait des histoires. Heureusement, les convives arrivèrent. D'abord, M. Paul de Grémonville, le diplomate entrevu au bal, puis Fumichon, cet industriel dont le dévouement conservateur l'avait un soir scandalisé. La vieille duchesse de Montreuil-Nantuat les suivait. Mais deux voix s'élevèrent dans l'antichambre. « J'en suis certaine, » disait l'une. « chère belle dame, » répondait l'autre, « de grâce, calmez-vous. » C'était M. de Nonancourt, un vieux beau, l'air momifié dans un cold cream, et Madame de Larsilois, l'épouse d'un préfet de Louis-Philippe. Elle tremblait extrêmement, car elle avait entendu tout à l'heure sur un orgue une polka qui était un signal entre les insurgés. Beaucoup de bourgeois avaient des imaginations pareilles. On croyait que des hommes, dans les catacombes, allaient faire sauter le faubourg Saint-Germain. Des rumeurs s'échappaient des caves. Il se passait aux fenêtres des choses suspectes. Tout le monde s'évertua cependant à tranquilliser Madame de Larsilois. L'ordre était rétabli. Plus rien à craindre. Cavaignac nous a sauvés. Comme si les horreurs de l'insurrection n'eussent pas été suffisamment nombreuses, on les exagérait. Il y avait eu 23 000 forçats du côté des socialistes, pas moins. On ne doutait nullement des vivres empoisonnés, des mobiles sciés entre deux planches et des inscriptions des drapeaux qui réclamaient le pillage, l'incendie. « Et quelque chose de plus ?» ajouta l'ex-préfète. « Ah, cher !» dit par pudeur Madame d'Ambreuse, en désignant d'un coup d'œil les trois jeunes filles. Monsieur d'Ambreuse sortit de son cabinet avec Martinon. Elle détourna la tête et répondit au salut du pèlerin qui s'avançait. L'artiste considérait les murailles d'une façon inquiète. Le banquier le prit à part et lui fit comprendre qu'il avait dû, pour le moment, cacher sa toile révolutionnaire. « Sans doute, » dit Pellerin, son échec au club de l'intelligence ayant modifié ses opinions. Monsieur d'Ambreuse glissa fort poliment qu'il lui commanderait d'autres travaux. « Mais pardon, ah, cher ami, quel bonheur !» Arnoux et Madame Arnoux étaient devant Frédéric. Il eut comme un vertige. Rosanette, avec son admiration pour les soldats, l'avait agacé toute l'après-midi. Et le vieil amour se réveilla. Le maître d'hôtel vint annoncer que Madame était servie. D'un regard, elle ordonna au vicomte de prendre le bras de Cécile, dit tout bas à Martinon, « Misérable !» et on passa dans la salle à manger. Sous les feuilles vertes d'un ananas, au milieu de la nappe, une dorade s'allongeait. Le museau tendu vers un quartier de chevreuil et touchant de sa queue un buisson d'écrevisses, des figues, des cerises énormes, des poires et des raisins, primeurs de la culture parisienne, montait en pyramide dans des corbeilles de vieux saxes. Une touffe de fleurs, par intervalles, se mêlait aux claires argenteries. Les stores de soie blanche, abaissés devant les fenêtres, emplissaient l'appartement d'une lumière douce. Il était rafraîchi par deux fontaines où il y avait des morceaux de glace, et de grands domestiques en culottes courtes servaient. Tout cela semblait meilleur après l'émotion des jours passés. On rentrait dans la jouissance des choses que l'on avait eu peur de perdre, et Nonancourt exprima le sentiment général en disant « Ah, espérons que messieurs les républicains vont nous permettre de dîner. » « Malgré leur fraternité, » ajouta spirituellement le père Roch. Ces deux honorables étaient à la droite et à la gauche de Madame d'Ambreuse.